France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet Campagne, bonjour. Avant de vous donner le sommaire de ce dernier numéro de la semaine, je vous annonce le 20e congrès mondial de la bio qui se tiendra à partir de lundi jusqu'au 10 septembre à Rennes. Il s'agit du plus grand rassemblement mondial d'acteurs du secteur biologique, avec des agriculteurs, des chercheurs, des citoyens, autour de 80 conférences données en particulier entre le 8 et le 10 septembre, accessible en ligne ou en présentiel, comme on dit maintenant, au couvent des Jacobins à Rennes. Au menu de ce vendredi, des balades de l'émerveillement en adresse des thérapeutes et des praticiens qui souhaitent accompagner leurs patients dans la nature. Et tout de suite, une ferme éco-solidaire ouverte au sans domicile fixe.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Elsa Maillot, bonjour.
Bonjour.
Elsa, vous êtes coordinatrice de l'association La Ferme des Lilas à Langon, dans le sud Gironde. Et vous êtes partie d'un diagnostic très simple, c'est qu'il y a très peu de structures pour accueillir et s'occuper des personnes sans domicile fixe.
Oui, en effet. Sur ce territoire, oui, il y en a très peu.
Alors pourquoi on s'intéresse à votre projet? C'est parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'héberger, de donner un toit, mais c'est aussi de procurer une activité. D'où l'idée de se réunir dans un espace qui correspond à une ferme.
Oui, tout à fait. En fait, c'est en effet le but de l'association, d'offrir un toit, et on voulait vraiment créer et développer ce lien avec la nature, sachant qu'en plus le territoire s'y prête parce que c'est à 80% des terres agricoles. Et du coup, on est persuadé que ce lien et ce contact avec la nature peut permettre, voilà, à des personnes qui sont désocialisées ou un peu en perte d'estime de soi, etc., de se rétablir, de se remettre sur pied. Et on pense que c'est un bon outil thérapeutique.
Oui. Alors, hébergement, activité, ça ressemble à un programme Emmaüs.
Oui, exact. Ben, on a pris exemple sur... le premier qu'ils ont ouvert, Emmaüs, ça a été la ferme de Moyen-Brie en Picardie, si je me trompe pas, qui accueille toujours des personnes sortant de prison ou en aménagement de peine. Et donc, pareil, c'est hébergement, et ils font une activité de ferme, ils font du fromage de chèvre, je crois. Et depuis, Emmaüs a essaimé un peu ce projet, en fait, sur différentes régions. Et en fait, leur but, justement, c'est que sur chaque région, il me semble qu'il y ait un petit frère de Moyen-Brie.
Et la ferme, vous l'avez...
Une petite sœur, d'ailleurs.
Oui, exact. La ferme, vous l'avez trouvée?
Alors non, pas du tout. Là, ça fait du coup un an qu'on travaille sur le projet. Donc, il a fallu l'écrire, le penser, en parler, échanger, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine. La ferme, aujourd'hui, il y en a en vente, mais ça a un certain coût. Financement que nous n'avons pas aujourd'hui avec notre petite association. Pour l'instant, on a mis en fait un peu de côté l'achat de la ferme, parce que c'est un gros investissement. Et on va commencer, en fait, on aimerait commencer par une phase d'expérimentation sur une petite unité dans une location de maison pour accueillir déjà 3 personnes, et puis aussi les locaux de l'association, parce que pour l'instant nous n'avons pas de bureau, et en fait créer une équipe mobile, en fait, qui irait vers les personnes, parce que sur ce territoire il y a aussi une problématique de mobilité. C'est compliqué, il y a pas du tout de transport en commun à part des bus de région, voilà. Et du coup, essayer à des personnes qui sont hébergées chez d'autres ou sans abri, de pouvoir leur trouver, à l'heure actuelle en tout cas, un logement pérenne. Mmh. Et du coup, pour créer ce lien avec la nature, on a entamé un partenariat avec une association qui s'appelle les Jardins Familiaux à Langon, où on a une parcelle de 100 mètres carrés pour faire notre potager en maraîchage biologique, voilà, avec les bénéficiaires.
Mmh. Vous avez fait des appels du pied à la... région ou département?
Oui, tout à fait. Alors, le département nous suit sur ce projet depuis septembre 2020, donc depuis un an. On a fait des demandes, on a répondu à des appels à projets auprès de, en effet, de la région et du département. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. On a répondu aussi à des appels à projets auprès de fondations, auxquels on attend des réponses. Et pour l'instant, financièrement, les seuls à nous aider, c'est Bordeaux Mécènes Solidaires. Pour l'instant, c'est les premiers, donc on espère que ça va enclencher un peu le système des financements, des subventions, voilà, tout ce qu'on a.
Ouais, la ferme des Lilas sera une ferme éco-solidaire. Les activités, il y a l'accompagnement social et vous le faites déjà. Mais il y aura du maraîchage bio, une boutique solidaire et aussi un espace culturel.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, à la base, on est des amis qui viennent un peu du milieu culturel. Il y a des musiciens. Moi, j'ai tenu un bar à spectacle. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. On aime beaucoup la culture. Mmh. On a envie de la produire sur ce territoire aussi et d'en faire du coup participer les bénéficiaires de l'association. Et pareil, comme le maraîchage, on sait que c'est un outil thérapeutique essentiel, que ce soit la musique, le théâtre, la peinture, enfin voilà, n'importe quelle forme d'art permet voilà à tout à chacun de reprendre confiance en soi, de partager les uns avec les autres, voilà.
Alors vous êtes dans une première phase d'activité, elle est provisoire, on l'a bien compris, vous pouvez soutenir cette démarche avec cette ferme éco-solidaire et son programme agriculturel, la Ferme des Lilas, un site fermedeslilas.com, enfin c'est jimdocite.com, et puis une page Facebook aussi à l'association La Ferme des Lilas. Merci Elsa.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Comme la Charente est l'étape du jeu des 1000 euros cette semaine, je salue Valérie qui nous écrit depuis Rouillac. Elle préside la recyclerie associative Avril. Née en 2015 dans le but de réduire les déchets et de participer aussi à une économie circulaire, la recyclerie comporte un café associatif et des ateliers zéro déchet. Si je vous en parle, pas uniquement parce que c'est en Charente, mais c'est par la quantité de produits, d'articles et d'objets qui sont revalorisés, car sur 40 tonnes de matériel d'objets collectés depuis janvier, seuls 4% sont jetés. Le site, c'est avril-recyclerie.fr. Marie, autre correspondante de Charente, est chef de projet pour Terre de Saveur, Saveur au pluriel. Il s'agit d'un site qui s'apparente à une grande place de marché sur Internet de produits gastronomiques de Charente et du Périgord. Vous allez me dire, oui, c'est encore une plateforme de vente en ligne, comme toutes celles qui envahissent la toile, ce qui est vrai. Je précise toutefois que celle de Terre de Saveur référencie 262 producteurs et pour l'instant 82 vendent en ligne. Les autres disposent de points de vente physiques. Et puis le site apporte aussi des informations touristiques à l'aide de vidéos sur des villages à découvrir en Charente et en Dordogne. Il est gratuit par ailleurs pour les producteurs. Le site c'est Terre de Saveur, Saveur donc avec un S, .com. Manon Luneau, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors je devrais sous-titrer cet échange avec vous, tel père, telle fille.
Oui, c'est un beau sous-titre.
Bah oui, c'est très bien. Manon, fille de Patrick. Patrick qui depuis combien d'années organise des approches de la nature, enfin, il fait de l'accompagnement, ce que vous faites aussi, mais il vous a transmis vraiment le même souhait d'ouvrir les portes, de décloisonner et de s'émerveiller, puisque vous créez des balades de l'émerveillement. Et après 2 années d'exercice, un livre est sorti aux éditions de la Salamandre. C'est quoi une balade de l'émerveillement ?
Alors une balade de l'émerveillement, c'est une expérience plurielle pour se sentir mieux grâce au contact de la nature. Et puis oui, j'aime bien votre référence effectivement à mon papa. Les balades de l'émerveillement, elles viennent un petit peu de là. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. J'ai grandi en pleine nature, entourée de parents amoureux de la nature, dont bien sûr mon papa, cinéaste animalier. Mmh. Et j'ai très vite compris, en tout cas mon corps l'a ressenti, que mettre un pied dehors, être au contact de la nature, ça fait du bien. Et un petit peu plus tard, en grandissant, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose en jeu qui était certainement ce sentiment d'émerveillement.
Ouais, mais Manon, ce sont les enfants des villes qui découvrent le bonheur de mettre un pied dans la nature et dans la campagne.
Ah, ben pas forcément. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on peut pas émettre de différence entre des enfants qui vivraient en milieu rural et des enfants qui vivent en milieu urbain. Il y a vraiment un déficit de l'expérience de nature, quel que soit le milieu dans lequel on grandit, même si on pourrait penser que lorsqu'on grandit à la campagne, entouré de nature, on a plus de facilité d'accès. Eh bien, certaines études montrent le contraire, malheureusement.
Réaliser une balade de l'émerveillement, c'est suivre un programme, j'imagine, très strict.
Ouh, alors moi j'aime pas trop ce mot strict.
Je l'ai fait exprès, je m'en doutais.
J'aime pas trop les cases, j'aime pas trop, au contraire, moi je laisse une grande part à l'intuition et à ce qui arrive dans le moment présent. Effectivement, moi j'accompagne plusieurs personnes, hein, des enfants hypersensibles, mais des personnes aussi atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je les accompagne pour qu'elles se sentent mieux au contact de la nature, mais vraiment avec une grande ouverture, avec des outils qui me sont propres, que j'ai créés, que j'ai remodelés, mais je laisse vraiment une place pour que la relation entre la personne que j'accompagne et la nature puisse avoir lieu. Et chaque relation est unique. Ouais, en fait.
Alors, sans être critique, il y a des personnes qui font maintenant, ce qui commence à se développer, une forme de sylvothérapie qui passe par le plaisir du contact et enlacer un arbre. Encore, il faut trouver un arbre pas trop gros. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais ça va plus loin que ça quand même.
Oui, alors, mais c'est souvent une question qui revient dans la bouche des personnes que j'accompagne, puisque maintenant je forme aussi des thérapeutes, des praticiens qui souhaitent accompagner d'autres êtres humains à se sentir mieux. Et on me demande souvent, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que c'est de la sylvothérapie? Est-ce que c'est des bains de forêt? Donc il y a un très grand besoin de nommer, d'entrer dans des disciplines. Et c'est vrai que de mon côté, j'essaye de cultiver cette ouverture-là en dépassant cette image peut-être un peu stéréotypée de l'enlaçage de l'arbre qu'on connaît bien parce qu'elle est très médiatisée.
Oui. Avec Patrick, votre papa, vous avez réalisé, écrit plusieurs guides d'activité nature. Alors quand on dit activité nature, il faut connaître aussi l'espace naturel, c'est votre cas.
Alors bah tout dépend ce qu'on entend par connaître. Moi je connais la nature avec le cœur, vraiment c'est quelque chose que j'aime bien dire et que j'aime bien vivre surtout. On n'a pas besoin d'être naturaliste et de connaître justement le nom latin des petites plantes qu'on va rencontrer pour s'émerveiller dans la nature, pour prendre plaisir à jouer, à observer, à goûter, à sentir, à créer avec la nature. Et ça c'est vraiment quelque chose que je transmets aussi aux personnes que je forme et qui souvent me disent mais en fait moi je connais pas du tout la nature, donc je me sens pas légitime à accompagner d'autres personnes dans la nature. Moi, j'ai vraiment envie de les accompagner à dépasser un petit peu ce complexe du faux naturaliste qui m'a habité pendant un petit moment, qui finalement n'a plus vraiment lieu d'être. Ce qui compte, c'est d'ouvrir la porte du dehors pour imaginer des histoires. Qui est-ce qui est passé par là? Est-ce que c'est un blaireau? Est-ce que c'est un chevreuil? Et réinventer des nouveaux récits, c'est ça qui compte.
La prochaine session de formation, c'est du 16 au 25 septembre à Mézières-en-Brenne dans l'Indre.
Oui, tout à fait. Donc dans un magnifique lieu de nature au pied des sentiers encore un petit peu sauvage, dans le parc naturel régional de la Brenne. Donc voilà, pendant 10 jours, une expérience immersive en petit groupe pour vraiment expérimenter la nature et pouvoir ensuite accompagner d'autres personnes dans ce sens-là.
Oui. Votre site a un drôle de nom, la Cactée qui caquette.
Oui. Oui, c'est un drôle de nom et je rigole toujours quand on le prononce parce que j'avais envie d'un nom qui fasse rire et c'est en général ce qui se passe. Et pour moi, le rire est vraiment aussi à remettre au cœur de nos vies. Donc, lacactéequicaquette.com, effectivement, c'est le nom de mon site et qui fait référence aux histoires dont je parlais tout à l'heure.
Génial. Et tous d'or en balade aux éditions de la Salamandre. Merci Manon.
Merci Philippe.
Et merci aussi à Joël Levert, merci aux techniciens et techniciennes de France Inter, et en particulier aujourd'hui à Pierre Faucillon.